L'Atlantique au XVIIIe siècle, par Pascal Briois. Traite et commerce triangulaire. La richesse de l'Europe des Lumières s'explique largement par la prospérité du commerce de traite. La vente des esclaves africains aux colonies est en effet à la source du capital qui s'accumule dans les ports comme Londres, Bristol, Liverpool, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Amsterdam ou Lisbonne. Triste paradoxe d'une Europe qui s'ouvre aux idées nouvelles et qui déporte dans le même temps, au-delà de l'océan, 6 millions d'hommes transformés en marchandises. Ce sont les Espagnols qui, les premiers, pratiquent la traite transocéanique, dès le XVIe siècle. Leurs asientos sont des contrats qui affirment à une personne ou à une compagnie, parfois étrangère, le droit et la charge de convoyer de la main-d'œuvre servile dans les colonies de l'Empire. À la fin du XVIIe siècle, ce sont les Malouins qui ont la haute main sur l'asiento. Mais ils la perdent avec le traité d'Utrecht en 1713, qu'ils octroient aux Anglais. Parallèlement, les Portugais subviennent eux-mêmes à leurs besoins en esclaves au Brésil en ayant recours à leur propre compagnie négrière. Au XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe, Français, Anglais et Hollandais adoptent pour eux-mêmes la pratique de leurs prédécesseurs, car les économies de plantation qu'ils mettent en place aux îles et aux Amériques requièrent le travail forcé d'esclaves. L'organisation de la traite peut varier, mais si les Portugais choisissent la solution simple du commerce en droiture, ils se contentent de voyages entre l'Afrique et le Brésil, échangeant esclaves contre tabac, la plupart des nations européennes optent pour le commerce triangulaire. Dans ce type de circuit, les bateaux partent d'Europe chargés d'un assortiment à vendre en Afrique. Les marchandises sont toujours à peu près les mêmes. Textiles bruts, indiennes, textiles finis, vêtements, draps, manteaux, armes blanches, armes à feu, vins et spiritueux, matières premières brutes, lingots de cuivre ou d'étain, produits semi-finis ou finis, hameçons, bassines, machettes, articles de fantaisie et parures, pacotilles de mauvaise qualité aux yeux de l'Européen, mais instruments de distinction pour l'Africain, instruments monétaires, pièces métalliques, mais aussi coquillages tels que les cories, tabac, articles de cadeaux et de paiement, des coutumes pour les intermédiaires, armes, vaisselle, bijoux, soieries. Dans les postes de traite et le long des côtes du continent africain, ces objets sont la monnaie d'échange qui permet d'acheter les esclaves fournis par les chasseurs africains ou des caravaniers au camp de captifs des comptoirs. Une fois la cargaison humaine embarquée, l'attente peut durer jusqu'à un an, les capitaines négriers font cingler leurs navires vers l'Amérique ou les Antilles, où les esclaves sont vendus contre les produits des plantations, sucre, mélasse, rhum, tabac, café, indigo. À l'arrivée, les navires respectent une quarantaine destinée à éviter toute contagion épidémique. Dans un deuxième temps, la vente a lieu à bord du navire après que l'on a procédé au rafraîchissement. On les nourrit, on les soigne, on maquille leurs défauts physiques, on les huile pour que la peau soit plus belle. Le chargement de produits tropicaux réalisé aux colonies est ensuite vendu en Europe. Tel est le principe du commerce de traite. Mais la description qui vient d'être faite ne rend absolument pas compte des conditions matérielles du transport des esclaves et des terribles souffrances des voyages. Les navires négriers, qui ne sont que rarement équipés spécialement pour leurs fonctions, sauf dans le cas hollandais, sont des bâtiments de tonnage moyen, 177 tonneaux de moyenne. Les plus gros, qui jaugent 300 tonneaux, font 33 mètres de long pour 8,50 mètres de large, et sont conçus pour contenir 600 esclaves dans l'entrepôt et 40 hommes d'équipage. L'entassement sur les navires négriers est épouvantable. On compte que dans un volume d'un tonneau, ce qui représente un cube de 1,70 m de long sur 1,60 m de large et 53 cm de hauteur, on fait vivre entre 2 et 5 esclaves arrimés à leur chaîne dans des espaces hauts de 80 cm à 1,50 m. Ces hommes et ces femmes sont marqués au fer rouge et complètement nus ou seulement vêtus d'un pagne pour éviter la vermine. Les faibles aérations de la cale, les séances de douche collective et d'exercice sur le pont ne peuvent contrebalancer les déplorables conditions d'hygiène et enrayer les épidémies qui se déclenchent durant les 60 jours du voyage. Les esclaves, souvent déjà malades avant l'embarquement, souffrent du froid, du mal de mer, de l'insalubrité liée aux déjections des malades, de dépression psychologique et d'une alimentation insuffisante. La nourriture emportée est en effet minimale, afin de minimiser les coûts de l'entrepreneur. Chaque captif ne dispose guère de plus de 2000 calories par jour, sous forme de soupe de riz, de manioc et de fèves, ce qui occasionne des carences, et de 2 à 3 litres d'eau. À titre de comparaison, les instructions de la Royale imposent de fournir aux pensionnaires une ration minimale dont on a calculé qu'elle correspondait à 2400 calories par jour. Le taux de mortalité parmi les esclaves varie entre 0,5 et 50%. Au décès par maladie s'additionnent les séries de suicides. Et même si les moyennes de 15% que l'on avance pour les expéditions négrières nantaises ne sont pas très fiables, elles donnent une idée de l'importance des pertes. La mortalité des marins n'est au demeurant pas moindre. On estime même qu'elle avoisine les 18% de moyenne. Pour les gens de mer, le commerce africain est en effet plus dangereux qu'un autre, et cela pour plusieurs raisons. La première est que le climat et les maladies tropicales affectent les équipages qui restent longtemps dans les zones de traite. La deuxième est que les navires négriers sont souvent attaqués par des corsaires ou par des naufrageurs de la côte. La troisième, enfin, est que les mutineries d'esclaves, bien que relativement rares, sont souvent sanglantes des deux côtés. L'évaluation de l'importance numérique de la traite au XVIIIe siècle a fait couler beaucoup d'encre et les quelques résultats que l'on est en mesure d'avancer aujourd'hui doivent être envisagés avec circonspection, car entre les hypothèses hautes et les hypothèses basses, les chiffres varient grandement. On admet cependant que les Anglais seraient responsables au XVIIIe siècle de la déportation de 2 500 000 Noirs, dont 600 000 destinés aux colonies espagnoles au titre de l'Asiento, les Portugais de 1 800 000, les Français de 1 200 000, les Hollandais de 350 000, les Danois de 5 000. Le détail du commerce esclavagiste pour chaque grand port de traite n'est de surcroît pas toujours facile à donner, mais quelques exemples sont éclairants. Ainsi, les expéditions nantaises sont au nombre de 1321 de 1707 à 1793 et concernent quelque 47 066 marins et 458 264 Africains. Sur la même période, les navires négriers de Bristol transportent au cours de 537 expéditions 93 647 esclaves en Amérique. Les rythmes de la traite sont, au demeurant, assez variables. Ainsi, Bristol n'envoie que 4 vaisseaux en Afrique durant la guerre de succession d'Espagne, mais 48 apparaît pour la même destination de 1728 à 1732. De la même façon, on peut repérer 5 phases actives dans la traite nantaise, séparées parfois par de longues phases sans expédition correspondant aux périodes de guerre, la guerre de 7 ans par exemple. Au total, quoi qu'il en soit, les Européens prélèvent tout au long du XVIIIe siècle, si l'on compte également les morts que chaque radia négrière ne manque pas de provoquer, près de 5% de la population africaine. On imagine le coût démographique énorme que représente pour le continent noir une telle hémorragie de sa population en âge de procréer. Du côté européen, la traite n'apparaît pas scandaleuse, du moins pas dans un premier temps, tant que l'anti-esclavagisme n'est pas venu à bout de ce que Dagé appelle les bastilles mentales. On avance, c'est le cas par exemple du théologien Jean Bellon de Saint-Quentin en 1764, que l'esclavage est un produit des guerres entre Africains et que le négrier, en achetant les prisonniers de guerre, leur sauve la vie. On soutient également que l'Africain naît esclave et que par conséquent la privation de liberté ne signifie rien pour lui. On avance enfin que le nègre des plantations n'est pas plus malheureux que le paysan européen. Ces arguments oiseux confortent surtout l'idée que l'on ne peut pas se passer de l'esclavage étant donné son poids dans l'économie et en particulier dans le commerce colonial. Les armateurs français, par exemple, considèrent qu'un quart de la population métropolitaine vit d'une façon ou d'une autre de la traite, à travers le négoce ou l'activité industrielle. Cela est globalement exagéré, mais il est certain que les bénéfices de la traite pour les armateurs sont considérables. On estime en effet que la rentabilité du commerce négrier est de l'ordre de 15 à 20% dans la première moitié du siècle, et de 4 à 10% dans la seconde. Certes, l'investissement initial est souvent lourd, un navire négrier coûte à Nantes entre 150 000 et 300 000 livres, alors qu'un navire de commerce en droiture pour les Antilles revient au maximum à 100 000 livres, mais il est toujours possible de se grouper en société par action ou d'acheter simplement des parts d'expédition. Par ailleurs, le point fondamental est que les bénéfices du négoce esclavagiste rentrent rapidement, sur 2 ou 3 ans, grâce au crédit, sans immobiliser le capital. La constitution de grandes fortunes d'armateurs spécialisés dans la traite, bien que toujours impliqués dans d'autres circuits d'échange, est la preuve de la prospérité de ce commerce qui reste moins onéreux que le commerce des Indes. De fait, de grandes dynasties de commerçants négriers ont pignon sur rue en Europe. Pour les citer, les Montaudoin de Nantes, les Beaufils du Havre, les Giraudot de La Rochelle, les Colston de Bristol, les Gregson ou les Earl de Liverpool. La traite négrière est indéniablement un aspect fondamental de l'économie européenne du XVIIIe siècle. Sans elle, pas de commerce colonial, pas de révolution de la consommation, pas d'accumulation capitaliste et sans doute pas d'industrialisation. Pourtant, l'évolution même de la société européenne du XVIIIe siècle remet en question cette pratique qu'il apparaît de plus en plus difficile de justifier.